Alors après une introduction un peu longue, voilà, sur le péché, ce que c'était, ce que ça produisait, d'où ça vient, nous allons maintenant parcourir les 7 péchés capitaux. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, les péchés capitaux, c'est une division intellectuelle du péché, qui est d'ordre spirituel, qui a pour but de nous aider à combattre le péché. Le péché qui vient donc des 3 concupiscences, comme je l'ai dit la dernière fois, concupiscence de la chair, des yeux ou de l'esprit, et qui va comme des sources maléfiques, qui vont donner naissance au péché. Donc ces péchés capitaux, à ne pas confondre avec des péchés mortels, ça n'a rien à voir. La division péché mortel, péché véniel, le péché mortel c'est celui qui met fin à l'amitié avec Dieu, ça n'a rien à voir avec les péchés capitaux. Les péchés capitaux, ce n'est pas une question de gravité, parce que dans les péchés capitaux, il y a des péchés qui sont de nature plus ou moins grave. Par exemple, la luxure, c'est du domaine grave. La gourmandise, c'est pas du domaine grave. Voilà. Par exemple. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un péché capitaux. On en parlera, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. C'est pas. Voilà. Donc, ne confondez pas le mot péché capitaux avec les péchés mortels, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, les péchés capitaux, ça vient de caput, la tête en latin. C'est des péchés qui sont la tête de plusieurs péchés. En fait, c'est ça. Donc, quand on parle de péchés capitaux, c'est des catégories de péchés, en quelque sorte, qui donnent naissance à d'autres. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Comme par exemple, on dit « l'oisiveté est mère de tous les vices ». Vous avez entendu ça, c'est une expression classique qu'on utilisait il y a longtemps, quand même. Enfin, on disait ça, « l'oisiveté est mère de tous les vices ». Et donc ça veut dire, voilà, quand on est oisif, c'est un péché en soi, et hop, 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 ça va donner naissance à plein de péchés. Voilà. Et bien c'est exactement ça, les péchés capitaux, c'est le classement de péchés selon des catégories, et dans chaque catégorie, on voit que ça donne naissance à plein d'autres péchés. Et donc, le but, c'est de se battre contre des péchés sources, donc capitaux, pour pouvoir améliorer des pans entiers de notre vie spirituelle. Voilà. C'est ça le but, d'étudier les péchés capitaux. Alors, les péchés capitaux, c'est une vieille division spirituelle. La première fois qu'on a classé comme ça les péchés d'un point de vue spirituel, c'est au IVe siècle. Donc, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. C'est Évargue le Pontique, un père du désert, un moine, qui parlait, lui, des plis de l'âme. Alors, il voyait différents plis de l'âme. C'est joli comme expression. On peut la garder parce que dans les replis de notre âme se cachent des choses vilaines. Il faut autant voilà, comme on étend un linge, il faut qu'il ne reste plus rien. Voilà. Après, on a parlé de vices principaux, et puis finalement, au Moyen-Âge, on a adopté définitivement cette expression de péché capitaux. Voilà. Et saint Thomas d'Aquin les a beaucoup expliqués, en tout cas de manière extrêmement claire. Et pourquoi c'est important de les débusquer, ces péchés capitaux ? C'est parce qu'il faut toujours remonter à la source. Vous savez bien que s'il y a une inondation, ça ne sert à rien d'éponger indéfiniment, et c'est mieux d'aller couper l'eau. Voilà. Alors après, il faut éponger, bien sûr, mais d'abord, il faut essayer de trouver d'où vient le problème. Et ben, quand on cherche les péchés capitaux, c'est un peu ça. On essaye de remonter à la source pour voir où il y a un problème. Pourquoi ? Parce que ces péchés capitaux, donc, ils nous gouvernent, et aussi, ils se dissimulent. Évidemment, parce que comme ils sont la source de péchés, eh bien, ils se cachent, en nous montrant des péchés qui sont moins graves, en fait, pour qu'on se batte avec des broutilles, et ils se cachent dans les replis de notre âme, justement, dans les recoins. Vous le savez bien, s'il y a une souris morte dans la maison, elle est forcément dans un coin impossible, et ça sent mauvais partout dans la maison. Donc il faut aller chercher dans le repli, là d'où vient. Il ne suffit pas de mettre un coup de sambon ou de déodorant ou déodorisant, je ne sais jamais comment on dit. Enfin, qu'importe. Et il faut trouver la source de cette puanteur. Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors les 7 péchés capitaux, je vais les nommer. Je vais vous donner une petite phrase pour vous aider à vous en souvenir. Mais pour ça, il faut connaître un petit peu le latin, mais vous allez voir, c'est du latin facile, c'est du latin de cuisine. Si tu ne veux pas aller à quia, c'est-à-dire si tu ne veux pas ne plus pouvoir rien dire, méfie-toi de saligia. S-A-L-A-G-I-A. Alors c'est ce qu'on appelle un acronyme, c'est-à-dire que le début saligia, chaque lettre, c'est le début d'un des péchés capitaux. Saligia, première lettre, c'est S. Et donc c'est S pour superbia, la superbe, l'orgueil. Le A, c'est accedia, la sédie, la paresse. Le L, c'est luxuria, la luxure, pas besoin de... Le I, c'est ira, l'ire, la colère. Le G, c'est goula, la gloutonnerie, gourmandise. Le deuxième I, c'est invidia, l'envie. Et le dernier A, c'est avaritia, l'avarice. Voilà. Donc, l'orgueil, la paresse, la luxure, la colère, la gourmandise, l'envie et l'avarice. Voilà les sept péchés capitaux. Alors, comme il faut bien commencer par un bout, eh bien, je vais commencer par le premier. Et vous allez voir, le premier, à bien des égards, c'est l'orgueil. Non sans rappeler que si on cherche les péchés capitaux, ce n'est pas pour le plaisir un peu morbide de chercher des choses vilaines. Ce n'est pas du tout ça, notre but. Hein, je l'ai dit au tout début, notre but, c'est le bonheur. Donc, c'est d'arriver à Dieu. Voilà. Et donc, si on cherche les péchés capitaux, d'abord, c'est pour s'en rendre compte, hein, pour ne pas vivre les yeux fermés en disant « voilà, tout va bien, si ça ne va pas bien ». Voilà. Parce que c'est... Et donc, il faut voir notre péché, ça s'appelle l'examen de conscience. Hein. Donc, notre petite méditation devrait aider votre examen de conscience pour pouvoir les regretter, ces péchés, hein, c'est-à-dire regretter, c'est d'abord c'est voir l'étendue du mal, hein, c'est de se dire, oulala, tout ça, ben, c'est drôlement mauvais. Hein, vous savez, comme le chirurgien qui est obligé d'ouvrir pour voir quelle est l'étendue des dégâts. Bon. Donc nous, on veut ouvrir notre âme et puis voir ce qui est mauvais pour pouvoir l'enlever, hein. Parce que nous, on ne veut pas vivre avec le mal, jamais. Et donc, le regretter, se confesser, si besoin est, en général, on a besoin. Hein, ça, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de confession, en général, ils vont tomber tout de suite dans le premier péché que je vais évoquer, qui est l'orgueil, en général. Hein, voilà. Et puis, surtout, pouvoir prendre une bonne résolution pour combattre, pour se dire, bon, bah, voilà, là, j'ai vu, effectivement, réfléchissant bien, que ce péché-là, effectivement, c'est plutôt, voilà, telle ramification, telle branche, eh ben, partons au combat. Voilà. Hein, on peut jamais se désespérer d'être pécheur, parce que c'est notre condition. Mais on peut pas non plus s'en accommoder. On peut dire, voilà, on peut toujours mieux, hein, toujours plus, davantage. Voilà. Les gens ont un appétit irascible pour les choses matérielles, toujours plus. Hein, plus d'argent, plus de vacances, plus de... Je sais pas quoi, toujours plus à manger, plus, voilà. Ben, et l'appétit, ça serait bien qu'on l'ait au plan spirituel, hein, mais toujours plus, voilà, faire mieux, autant qu'on peut. Alors l'orgueil, dit saint Thomas d'Aquin, c'est beau en latin parce qu'il dit « superbia est inordinatus appetitus propie excellentia ». Alors, c'est un amour désordonné ou inordonné, en latin c'est plus joli, mais c'est pas français inordonné, mais voilà, un amour désordonné de sa propre excellence. Voilà, c'est ça l'orgueil. C'est aimer de manière sans ordre sa propre excellence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, premier point, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? L'orgueil, il y en a de plusieurs types. En gros, si on veut, il y a deux grands types d'orgueil. D'abord, il y a l'orgueil charnel et mondain. Et puis d'autre part, il y a l'orgueil spirituel. Alors, l'orgueil charnel et mondain, eh bien, c'est, désirer les biens, s'enorgueillir de sa fortune, de sa beauté, de sa naissance, de ses honneurs, voilà. Hein? Alors, vous voyez très bien ce que ça veut dire, hein? Parce qu'il y a des gens, vous ne pouvez pas les rencontrer sans qu'ils vous racontent combien ils ont fait des choses extraordinaires, combien ils sont assez riches. Enfin, les gens aiment bien se vanter beaucoup. Hein? Voilà. Et alors, ils se complaisent dans une espèce de tableau d'eux-mêmes. Voilà. Donc, l'orgueil des biens charnels et mondains, parce que ça va avec, hein, avec les mondanités où, peut pas à Paris aller quelque part sans dans une famille. Est-ce que vous avez vu la dernière exposition, etc. Sur... Alors moi j'aime bien aller. C'est pas un péché hein, d'aller à une exposition. Moi j'aime bien l'exposition. Enfin si le sujet m'intéresse. Vous voyez. Mais il y a une espèce d'orgueil mondain. Il faut aller à toutes les expositions, toutes les grandes expositions. Je me souviens une fois, c'était il y a longtemps, et c'était sur Turner. Je déteste cet auteur. Bon, c'est comme ça. C'est des choses sensibles, l'art. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Moi, j'aime pas Turner. Bon. Et alors, donc, quelqu'un m'avait dit, mais est-ce que vous êtes allé voir l'exposition Turner, etc. Bah, je lui ai dit, non, je ne peux pas aller voir parce que j'aime pas Turner. Bon. Ah, bon, mais pourtant, c'est une belle exposition, etc. Enfin, bon, je dis oui, non, mais c'est très bien, c'est super, c'est une belle exposition, c'est un peintre, je sais que c'est un grand peintre, mais moi, j'aime pas. Voilà. Donc, et, c'est pas la peine de. Comme si. C'est pas parce qu'on a vu toutes les expositions de Paris sur les 5 dernières années qu'on est devenu, je sais pas quoi, un expert en je sais pas quoi. Enfin, peut-être qu'on n'a rien compris. Donc, bon. Donc allez voir des expositions, hein, c'est pas mon propos, si vous aimez, mais vous voyez, on peut le transformer en un snobisme terrible. Voilà. Alors ça c'est encore, ça c'est le moins grave des orgueils, c'est l'orgueil charnel ou mondain, c'est l'orgueil des choses matérielles. Mais il y a un orgueil qui est bien pire, hein, c'est l'orgueil spirituel. Alors l'orgueil spirituel, eh bien, c'est d'abord celui des sciences. Alors là vous avez des gens qui savent tout, surtout. Hein, j'en connais, un défaut qui est inhérent à ceux qui font beaucoup d'études, hein, c'est normal, et donc, enfin, il faut faire attention, parce que vous avez des gens qui, voilà, alors, vous ne les avez pas rencontrés depuis 5 minutes, qui vous ont déjà donné tout leur curriculum vitae, hein, voilà. Un jour, quelqu'un comme ça me dit, bonjour, je m'appelle un tel, je suis ancien polytechnicien, ah bon, je dis, vous savez, je m'en fous, bon. Mais non, c'était pas dans un. C'est très bien, hein, c'est super d'avoir fait Polytechnique, c'est une grande école, je suis très. Voilà. Enfin, il ne s'agissait pas de ça, il s'agissait de faire une action très simple, etc. Je ne voyais pas très bien la nécessité de me dire, pour me conduire à un endroit, etc., qu'il était polytechnicien. C'est pas parce qu'on a fait Polytechnique qu'on a son permis de conduire. C'est deux choses. Ouais. Alors, si c'était enorgueilli pour m'emmener, dire, vous savez, j'ai mon permis de conduire, j'ai jamais eu d'accident, bon, bah là, oui, là, ça, c'était utile, ça m'aurait rassuré. Hein. Mais le fait qu'il soit polytechnicien, aucun intérêt. Hein. Science. Bon, encore que là, c'est pas tellement la science, hein. c'est les honneurs encore. Encore très mondain. Mais on peut, vous voyez, vous avez une espèce de. Quand dans une soirée ou un dîner chez des gens, vous allez et puis on parle d'un sujet, puis alors quelqu'un qui en sait plus que vous, parce que ben, ça arrive heureusement hein, qu'il y ait des gens qui savent plus que nous, bon, et alors vous avez deux solutions, ou il vous explique de sorte que vous compreniez, hein, ou alors il vous explique que vous êtes, le Seigneur me pardonnera, que vous êtes un peu trop con, quoi, hein, que vous ne pouvez pas comprendre, bon, vous êtes tout petit, vous ne comprendrez pas, hein, vous êtes trop bête, vous voyez. Moi, les gens les plus intelligents que j'ai rencontrés, hein, j'en ai rencontré pas beaucoup, mais vraiment, j'ai rencontré quelques gens très brillants. Hein, eh bien, quand on sortait de leur conversation, d'abord, on était plus intelligents qu'avant, et puis surtout, on avait l'impression qu'on avait pu parler d'homme à homme. Moi, je connaissais un prêtre, un type extraordinaire, un type, le père de Marjorie. Jésuite qui a écrit une cinquantaine de livres, qui était professeur à Washington, professeur au Brésil, professeur à l'Angelicum à Rome, pas un idiot. Hein. Et alors quand j'allais le voir, toujours, il me demandait mon avis. Il me disait, mais Thierry, mais qu'est-ce que vous pensez de... Alors, au début, je lui dis, il se fout de moi, c'est pas possible. Il me demandait mon avis théologique, hein, j'avais 25 ans, 30 ans. Eh ben non. Ce type qui était brillamment intelligent, qui avait fait des années d'études, qui avait écrit une cinquantaine de livres sur des sujets théologiques, c'est pas pour rire, c'était pas... Il avait une telle humilité qu'il pensait vraiment que moi, un jeune blanc-bec, etc., hein, c'était un vieux monsieur, il pensait que j'avais vraiment peut-être une idée, une intelligence à lui apporter. J'ai toujours été très impressionné, vous voyez. Donc c'est l'inverse de l'orgueil des sciences en disant ben moi je sais, alors bon, taisez. Et, bon. Et puis alors le dernier orgueil spirituel, c'est le pire de tout, c'est l'orgueil des vertus. C'est l'orgueil des biens spirituels. Alors là, L'orgueil des vertus,
oui.
C'est-à-dire, je suis tellement vertueux, hein, je suis tellement bon, que, voilà, hein, on va pas, vous n'allez pas trop vous approcher, parce qu'entre vous et moi, hein, y a ça quand même. Hein, voilà. Alors, on peut rire, hein, parce que ben, je le dis d'une manière pour qu'on rie, évidemment, mais ça peut arriver. Hein. Telle personne, oui, c'est un mécréant, il ne va pas à la messe, voilà, etc. Ah oui, oui, c'est facile. Hein. C'est pas parce qu'on a un petit peu de vertu, et c'est bon hein, d'aller à la messe, de prier, etc., que ça y est, nous, on est élevés parmi les anges, et puis que les autres, c'est... Hein, c'est on n'a pas... Dieu ne nous a pas donné des grâces pour ça. Hein. Il ne nous a pas donné des grâces pour devenir orgueilleux et nous et écraser les autres. Il nous a donné, c'est l'inverse. Il nous a donné des grâces pour pouvoir les élever. Alors, qu'est-ce que l'orgueil ? Maintenant, je vous ai dit à peu près en gros ce que c'était que l'orgueil. Je vais voir dans quatre actes dans lesquels ça s'incarne, pour faire un peu plus pratique. Hmm ? Alors, l'orgueil, par exemple, premier acte, c'est de s'attribuer à soi-même ce qui vient de Dieu. Voilà. Alors ça, c'est très fréquent. Moi, je me suis fait tout seul. Vous savez, les gens sont persuadés qu'ils se sont fait tout seuls. Ça n'existe pas. Les gens qui se sont fait tout seuls, ça n'existe pas. Alors, oui, il y a des gens qui ont fait beaucoup, qui avaient peut-être moins reçu que d'autres, qui ont beaucoup travaillé plus que les autres. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Hein ? Mais ils ne se sont pas fait tout seuls. Un jour, hein, comme ça, hein, parce que les gens, c'est un snobisme aussi, ça. Plus vous allez dans des familles avec de haute naissance, hein, c'est-à-dire plus vous allez dans des familles où on a beaucoup reçu, plus vous allez trouver ce genre de personnes qui vous disent « Oh, vous savez, moi, j'ai dû tout me faire tout seul. » Mon œil. Hein. J'avais entendu un jour, hein, c'était une interview, mais c'était écrit dans un journal, j'ai oublié son nom, Dieu merci, ça m'éviterait d'être trop médisant, mais c'était un académicien qui se piquait de s'être fait tout seul. Il s'était fait tout seul. Bon, il était à Saint-Janson-de-Sailly, il habitait dans le 16e, il avait fréquenté les meilleures universités, mais il s'était fait tout seul. Bah oui, bah bien sûr, il s'était fait tout seul. N'importe quoi. D'abord, il ne s'était pas donné la vie à lui tout seul, déjà pour commencer, et ensuite, c'est parce qu'il avait honte de le dire, mais il était le fils d'un grand bourgeois parisien, et c'est pas un péché, vous voyez ? Mais ce n'est pas fait tout seul du tout. Voilà. Hein, mais ça, on a du mal. Et alors, d'un point de vue spirituel, ça peut nous arriver aussi. Hein. On peut dire, bon, ben moi j'ai fait, à force de dire mon chapelet, d'avoir fait des actes spirituels bons, etc., hein, je suis devenu... Hein, je suis devenu spirituellement quelqu'un de bien. Hein. J'espère que c'est vrai déjà, parce que sinon c'est un mensonge. Mais même si c'est vrai, c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Nullum bonum nisi adeo. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Pas de bien sinon en Dieu. Ça veut dire que tout bien qu'on fait, c'est parce qu'on a reçu la grâce pour le faire. Je n'ai été qu'un serviteur inutile. J'ai fait ce que j'ai pu, avec ce que j'ai reçu, c'est tout. On n'a pas, c'est pas la peine de... Hein, j'ai fait mon devoir, on disait dans le temps. Hein. Je n'ai fait que mon devoir. Ben c'est bien, c'est très bien. C'est ça notre coopération à Dieu, au bien. Ben c'est pas la peine de faire croire que on a tout inventé tout seul, qu'on a tout fait tout seul, etc. Et, je suis toujours admiratif hein, quand on remet des distinctions, parfois, on voit très bien des distinctions honorifiques, notamment à titre intellectuel, combien vraiment ceux qui sont des grands scientifiques, hein, ils passent la plus grosse partie de leur discours à remercier leur maître. Nous sommes des nains monter sur des épaules de géants. C'est ça la vérité. C'est qu'on n'a pas fait grand-chose nous-mêmes. Hein. et que ce qu'on a pu faire, c'est parce que on l'a reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Nous dit l'évangéliste Luc. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Rien. La seule chose qui nous est propre, que Dieu ne nous a pas donné, c'est le péché. Alors ça, c'est nous. Bon. Mais là, c'est rare qu'on s'enorgueillisse. Hein. Voilà. S'attribuer à soi-même ce qui vient de Dieu, en fait. Deuxième acte de l'orgueil, imputer à ses propres mérites ce qui vient de la grâce. J'en ai un peu parlé, en fait. J'ai parlé des deux un peu incidemment. C'est que le bien qu'on fait, c'est parce que Dieu nous donne de le faire. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut implorer sans cesse la grâce de Dieu. Parce que sinon, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Mais je peux tout. C'est le même saint Paul qui dit ça. Je peux tout en celui qui me fortifie. Tout seul, zéro, mais zéro plus l'infini, zéro plus Dieu, tout est possible. Tout est possible. Et ça, c'est pas de l'orgueil. Hein. C'est marcher avec le bon Dieu. Pas pareil. Hein. Troisième acte caractéristique de l'orgueil, la complaisance. Alors ça, le psalmiste, le psaume 36, le dit très bien. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Eh bien oui, parfois ceux qui, même d'ailleurs en général c'est les mêmes, qui ont un œil extrêmement fin et exacerbé pour voir les défauts des autres, ah ouais, je vois des défauts, moi ça va, c'est pas mal. Je sais que je suis pécheur, parce que, voilà, je suis obligé quand même, je suis prédicateur, donc je sais que je suis pécheur, mais finalement, je suis pas mal quand même, j'ai fait des choses bien. Et puis, voilà, la complaisance. Eh oui. Le faux jugement, c'est un mensonge en fait, le faux jugement que je porte sur moi-même. Et alors, non seulement c'est un mensonge, ce qui est déjà grave, non seulement je bafoue les dons de Dieu parce que c'est pas de moi si je suis bien, mais le pire du pire, c'est ce que dit le psalmiste, c'est que du coup, je vais pas pouvoir m'améliorer, puisque je suis bien, il n'y a pas d'amélioration possible, c'est déjà tout bon. Je suis à 20 sur 20 partout, c'est pas la peine de... Je ferai pas mieux. Voilà. Dernier acte de l'orgueil, c'est s'imaginer supérieur à tous. Voilà. Ah ben oui, puisque justement j'ai une certaine complaisance, que je suis certainement le meilleur, Et donc les autres sont pas terribles quand même, il faut être honnête, sont un cran en dessous, voilà. Et total, ça nous arrive ça, de se dire après tout. Vous savez, ça nous arrive souvent, c'est quand on trouve des excuses, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas toujours bien, qu'on n'a pas toujours fait des actes bons. Mais dès qu'on s'en aperçoit, la première chose qu'on se dit, ah oui, mais les autres, ils ne sont pas mieux. D'ailleurs, ça veut dire quoi, les autres ne sont pas mieux ? Ça veut dire que moi, je suis mieux, en fait. Donc, j'ai encore une petite marge. Pour l'instant, je ne bouge pas. Je vais arrêter de pécher, mais je ne m'améliore pas. Mais en attendant que les autres fassent mieux, Vous connaissez cette phrase qui est d'un orgueil terrible. Quand je me juge, je me trouve très mauvais. Mais quand je me compare, je me trouve meilleur. Tout de suite meilleur. Ça va tout de suite mieux. Quel orgueil. C'est l'inverse, C'est l'inverse qui devrait être vrai. Quand je me compare, quand je me compare vraiment, parce que, évidemment, si c'est le jugement du monde extérieur, mais si c'est vraiment le jugement de Dieu, si jamais j'arrive à sonder les cœurs et les reins, à connaître l'intérieur du cœur de chacun, peut-être que je devrais pleurer. Parce que je ne suis pas si bon que je pensais. Voilà. Alors, je vous ai dit dans comment pouvait se décliner un petit peu le péché, mais vous allez voir en quoi c'est des péchés capitaux, que c'est un des péchés capitaux que l'orgueil, parce que si vous avez un orgueil un peu débordant, ce qui va se passer, c'est que ça va produire plein de péchés différents. Alors j'en ai listé 7. Hein. J'aurais pu, très honnêtement, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin, j'aurais pu, si j'étais resté à ma table de travail, j'aurais pu en trouver, je ne sais pas combien, mais... Pourquoi ? Parce que l'orgueil, c'est un petit peu la source de tous les péchés. Hein. D'abord, c'est le premier péché avec le manque de foi hein, d'Adam et Ève. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils ont cru que leur jugement hein, eh ben, était meilleur que celui de Dieu. Ouais, Dieu nous a dit que si on mangeait du fruit de l'arbre, on allait mourir. En fait, ce n'est pas vrai. Hein. D'ailleurs, le serpent me l'a dit. Hein, ce n'est pas vrai. On va être divinisé. C'est Dieu, voilà. Dieu n'est pas si bon qu'on croit. Hein. Voilà, premier péché d'Adam et Ève. Ils n'ont pas fait confiance à la parole que Dieu leur a donnée. Ils ont péché par orgueil. Ils ont cru que leur jugement était meilleur que celui de Dieu. Eh oui. Eh oui. Alors, du coup, l'orgueil, ça engendre quoi ? D'abord, la vaine gloire. Le désir immodéré d'être admiré. Se vanter, s'enorgueillir, plaire. C'est très fréquent. Hein. Alors attention, hein. On aime être aimé, et ça c'est bon. D'ailleurs, on a besoin d'être aimé. On le voit bien, si les gens nous sont méchants ou pas, enfin, si on manque d'amour, quoi, on est triste. Enfin, on a besoin d'être aimé. Mais ce dont on a besoin, c'est de l'amour. C'est pas du semblant de l'amour. C'est pas de faire semblant pour être aimé. Vous avez des gens, alors ça peut tourner en maladie, hein. Ça s'appelle la mythomanie, qui ont tellement besoin qu'on les admire que tous les jours ils s'inventent une nouvelle histoire. Hein. Hier ils ont sauvé, je sais pas quoi, un enfant de la noyade. Demain ils vont sauver, enfin ils vont toujours faire quelque chose d'extraordinaire, quoi. Tous les jours quelque chose d'extraordinaire. Chaque semaine un nouveau fait de gloire. Et ben voilà. Donc, et ça, c'est, ben, tout simplement, c'est un mensonge. Et donc, on finit par ne plus vivre que pour cette image qu'on désire. C'est ça qui est dangereux. De quelque chose de bon, qui est le besoin d'être aimé, on fait quelque chose de mauvais, on le pervertit, parce que on va dépenser de l'énergie pour raconter, voilà, la vaine gloire. C'est un venin, dit saint Basile, un venin agréable. C'est ça qui est dangereux, parce que si on tout de suite on sentait que c'était mauvais, on arrêterait. Mais c'est un venin agréable, hein, qui empoisonne nos vertus. Alors, qu'est-ce que ça peut produire encore, l'orgueil ? Ben, ça peut produire la jactance. C'est une manière de, c'est une vieille manière de dire toujours des moulins à louange. Hein, mais pas à louange du Seigneur. Hein. Ça, c'est bon, de louer le Seigneur. Jour et nuit. Non, c'est de se louer sans cesse. Voilà. Alors ça, vous avez des gens qui sont de grands spécialistes. J'ai peur, d'ailleurs, qu'on ait même inventé une profession pour ça. Ça s'appelle la communication. Hein. C'est un peu ça, hein, la communication. C'est pas important que vous fassiez le bien. Mais c'est important que vous disiez que vous avez fait le bien, en revanche. Alors, bon, si vous l'avez fait, c'est pas plus mal, parce qu'on ne sait jamais que si quelqu'un vérifie, c'est bon, c'est mieux. Mais c'est plus important de savoir le dire. Hein. Voilà. Eh oui. Alors ça, pourquoi c'est dangereux ? Ben, c'est parce que quand on ne désire plus le bien, mais simplement dire qu'on a fait le bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'au débat, on va commencer par exagérer. Hein ? On va commencer par exagérer. Voilà. J'ai aidé un enfant à faire ses devoirs, et puis finalement ils étaient 2, 3, 10, et puis finalement grâce à moi ils sont entrés dans une grande école. Bon, calmons-nous, hein. Tu as peut-être aidé, ben c'est bien, un jour quelqu'un a compris grâce à toi quelque chose, tant mieux, hein. Peut-être aussi que ça vient de ses mérites s'il a réussi ses études. Donc, en fait, voilà, le danger, c'est qu'on exagère. Et puis, à la fin, carrément, on ment. Ouais, parce que vous voyez, le péché, c'est un entraînement, c'est un cercle vicieux, comme on dit, et on en a toujours besoin de plus, parce que ça ne satisfait pas l'âme. Le bien nous rassasie, nous repose, nous satisfait, nous rend heureux. Le mal, non. Et donc, il faut sans cesse alimenter, en faire plus, faire semblant, etc., et mentir. Voilà. Donc, attention. Qu'est-ce que ça peut produire encore ? L'ambition. L'ambition, c'est l'ambition de la gloire mondaine de ce monde. C'est de voir, de fixer sa vie en se disant, moi, mon but dans ma vie, je sais pas, je me souviens quand j'étais à l'école, oui encore, on avait fait, vous savez, les enfants, on leur demande toujours, j'étais au lycée, hein, on leur demande toujours ce qu'ils veulent faire dans la vie. Alors, normalement, les enfants vous disent pompier, enfin, si c'est des garçons, hein, pompier, médecin, aviateur, que sais-je, j'ai oublié. Et alors, il y en a un de nous qui avait répondu, je veux être cadre. Et cadre de quoi ? Il voulait être chef, quoi. Ah, d'accord, mais c'est quand même assez minable. C'est-à-dire que, voilà. Alors, encore, s'il avait voulu être chef de lui-même, ça aurait déjà été pas mal. Hein. Mais oui, mais vous savez, c'est comme ça. L'ambition, ça c'est l'ambition mauvaise. Hein. Attention, hein. Il faut viser haut. Être chrétien, c'est pas désirer être minable. Hein. Pas du tout. Il faut viser à la hauteur de ce qu'on peut faire. Parce que c'est toujours pareil. Les talents, si on en a reçu, c'est pour en faire quelque chose. C'est pas pour se dire, oh là là, moi je suis, attention, hein, moi je suis chrétien, alors je ne vais pas en faire de trop, parce qu'après je vais tomber dans l'orgueil, donc comme ça, je ne vais pas en faire de trop. D'ailleurs, pour être sûr de ne pas en faire de trop, je ne vais rien faire du tout. Et comme ça, hein, je ne serai pas orgueilleux. Voilà. Ben ça, c'est raté. Hein. Parce que c'est quoi ? C'est de l'ambition. C'est ambitionner paraître pour quelqu'un d'humble qu'on ne saura pas. En fait, on sera simplement quelqu'un de lâche. Alors, ce que ça peut encore produire, cet orgueil, c'est la présomption. Voilà. La présomption, c'est parce que, comme je me juge tellement bon, tellement au-dessus de tout le monde, tellement au-dessus de tout, des lois de la nature, des lois de la physique, des lois de l'intelligence normale, parce que mon intelligence est tellement supérieure, alors je vais devenir téméraire. Je vais m'embarquer dans des... Et donc ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que la témérité, ça met en danger les autres. Et par exemple, si vous êtes... je sais pas, vous emmenez des gens se promener en montagne, si c'est vous qui les guidez, et il faut de la prudence. Il ne faut pas se dire, oh ben, moi, je suis un tellement bon montagnard, je vais les emmener partout, je vais les... Ils emmenaient sur un glacier alors qu'ils sont en chaussettes et en... Ça arrive tous les ans, hein, vous savez, tous les ans. Eh oui. La présomption de croire qu'on est tellement fort, on connaît tellement bien les choses qu'il ne peut rien nous arriver. Vous voyez ? Eh bien, ça vient de l'orgueil encore. Ça. La présomption qui vient de l'orgueil. Il faut être prudent. Il faut voir les choses comme elles sont. Il faut voir nos capacités à la hauteur qu'on a et il ne faut pas inventer autre chose. Sinon, c'est dangereux. Alors, encore un autre fruit de l'orgueil, si j'ose dire, l'hypocrisie. Ben oui, parce que, à force de vouloir passer pour meilleur qu'on est, on travaille, on déploie une énergie absolument folle pour construire un personnage qui n'existe pas. C'est ça l'hypocrisie, hein, c'est vivre en dessous. Hypocritos, en vrai, c'est vivre en dessous de la vérité. Alors, on montre un masque, voilà, moi je suis un homme bon, charitable, enfin toutes les qualités, et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, voilà, l'hypocrisie, il faut la combattre vraiment, parce que c'est une maladie de l'âme, l'hypocrisie. Dans le secret, ton père te voit. Dans le secret. C'est les scouts hein, qui font le... les scouts qui font... C'est les louveteaux même, hein, qui font une BA dans le secret. Plus elle est secret, meilleure elle est. C'est le contraire de l'hypocrisie. Ça. Quand on leur explique ça, les enfants, ils comprennent très bien. Hein. Et alors, dès qu'on arrive à savoir le bien qu'ils ont fait, ils se disent « Ah, zut !» Voilà. Ils ont compris. Oui, ils ont compris. Ils ont compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Parce qu'on va arriver au bout, mais l'orgueil, qu'est-ce que ça peut encore produire? L'obstination. L'obstination dans notre propre jugement. Puisque c'est moi le meilleur, bah, c'est forcément moi qui ai raison. Voilà, c'est logique. Voilà. Ça vient de l'orgueil. Alors là aussi, vous voyez, c'est toujours subtil, hein, la vie spirituelle. Il faut être déterminé. Si vous êtes sûr de votre coup, bah, il faut le dire avec douceur, avec gentillesse, mais si c'est vrai, c'est vrai. Hein? Si on vous dit, vous vous appelez Antoinette alors que vous vous appelez pas Antoinette, il faut dire, ben bah, non, c'est pas ça mon prénom. Voilà. Vous voyez, c'est... Donc, l'humilité consiste pas à dire, oh ben bah, si vous voulez, alors bon... Vous voyez, hein? Deux et deux font cinq. Ah, ou si vous voulez, si vous voulez. Fausse humilité. Non, si deux et deux font quatre. Bon, alors, si on parle dans la base de 10, etc., enfin, j'y connais rien en mathématiques, mais, vous voyez. Donc, oui, si c'est vrai, c'est vrai. Mais l'obstination, c'est pas ça. L'obstination, c'est manquer de sagesse, en fait. C'est manquer de l'humilité nécessaire pour se dire, tiens, c'est marrant, moi, je pensais que c'était comme ça. Et puis là, il y a une personne qui me dit « Non, c'est pas comme ça. » Alors, réfléchissons, voyons. Peut-être qu'elle a raison. Bon, et puis, en réfléchissant, on s'aperçoit que la personne a tort. Bon, on lui dit gentiment, pour justement l'aider aussi, vous voyez. Mais, ne pas s'obstiner a priori en disant bon, « C'est forcément moi qui ai raison. » Voilà. Bon, et puis, un dernier fruit de l'orgueil, parce que c'est le mépris. Le mépris des autres, bien sûr, puisque finalement l'orgueil a comme mouvement de me tourner vers moi sans cesse, et donc les autres n'ont plus de place. Et donc je vais finir par les mépriser, parce que comme ils existent aussi, qu'ils existent quand même, ben finalement, voilà, je vais finir par les mépriser. Et alors, c'est sans fin, hein, parce que l'orgueil va toujours croissant, dit le psalmiste, le psaume 83. Et c'est pour ça qu'il est la source de nombreux péchés. Donc il faut arrêter avec l'orgueil. Alors, soyons modestes, c'est un péché contre lequel, si tout se passe bien, on se battra jusqu'au bout. Voilà. Hein? Monseigneur Escrivá, Saint José Maria Escrivá, à quelqu'un qui lui écrivait qu'il était très orgueilleux, que ça l'embêtait beaucoup, etc., il répond en disant « Ne t'inquiète pas, ton orgueil mourra, hein, mais un quart d'heure après toi. » Voilà. Bon, je ne sais pas si ça rassure, mais ça veut dire, voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. L'orgueil, c'est ce qu'il y a de plus intime à nous-mêmes. C'est nous-mêmes, en fait. Et donc, eh ben voilà, on va se battre avec... c'est super, on va pouvoir se battre jusqu'au bout. Voilà, on va s'améliorer sans cesse, mais... Il faut faire attention, parce qu'il est toujours, caché quelque part, l'orgueil. Et comme je l'ai dit, des grossiers orgueils mondains et charnels jusqu'au plus spirituel. Il y a un film comme ça qui s'appelle « L'associé du diable » où un avocat, je prends un avocat, c'est par hasard, enfin, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce film, un avocat, voilà, parce qu'il veut réussir, etc., il écrase tout le monde. Bon, et puis... À la fin du film, c'est une espèce de fiction complètement rocambolesque, mais qui est très bien faite. À la fin du film, il se retrouve au début de sa vie, en quelque sorte, où il peut de nouveau choisir, parce qu'il a toujours choisi le mal, et puis ben, du coup, il se met à servir le diable. Il s'en rend compte, donc il ne veut plus. Alors il se retrouve au tout début. Et alors, au lieu de choisir l'orgueil, d'écraser quelqu'un, etc., il choisit la vérité, et alors ben, il risque sa carrière, etc. Alors, voilà, enfin, il a choisi le bien. Et à ce moment-là, il y a un journaliste qui vient le trouver en disant « Oh, c'est extraordinaire! On n'a jamais vu un avocat risquer toute sa carrière pour défendre une petite fille qui était accusée injustement. » Enfin, qui... Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais... Et alors, le journaliste lui dit « Bon, ben, on prend rendez-vous, je fais un papier sur vous parce que vous êtes extraordinaire. » Et alors, il dit « Oui, d'accord. » Et on voit le journaliste partir, qui se transforme en diable, bien sûr, et qui dit « L'orgueil, c'est mon péché favori. » Il se cache partout. C'est mon péché favori. Bon, alors, l'orgueil, c'est mauvais, tout simplement parce que qui s'élève sera abaissé. Voilà. Luc 14, 11, hein, ou Matthieu 23, 12, d'ailleurs. Voilà. Or, l'orgueil est promis à sa chute. Je vis Satan tomber comme l'éclair, dit le Christ à ses disciples. Mais c'est voilà. L'orgueil a transformé des anges et même un archange en démons. C'est dangereux, l'orgueil. C'est dangereux. C'est pire que jouer avec le feu. Enfin, faut pas jouer avec le feu non plus. Hein. C'est faut pas jouer avec l'orgueil. Faut pas se dire, oh bah tant pis, moi je suis orgueilleux, tant pis. Mais non, pas tant pis. Si je suis orgueilleux, je vais éteindre le feu. Il faut que je me batte, parce que je ne veux pas être transformé en démon, quoi. Enfin, en damné. Votre orgueil a été précipité dans les enfers, dit Isaïe, chapitre 14. Donc, l'orgueil, ça peut nous mener que ça va mal finir. Hein. Donc, il faut qu'on s'en sépare. Voilà. Le moins d'orgueil, le mieux. Alors, c'est l'humilité. Ben, il faut travailler l'humilité. Voilà. Dieu relève les humbles. Il leur donne sa grâce, qu'il refuse aux superbes. Saint Jacques, chapitre 4. Marie a été regardée pour son humilité. Il a regardé l'humilité de sa servante. Et puis, notre médiateur, notre modèle, le Christ, hein, lui qui était de condition divine, dit Saint Paul, hein, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur. Voilà. Mais on n'a pas de meilleur exemple. Hein. On ne peut pas mieux. Il est Dieu. Il est Dieu et il s'est fait serviteur. Ben, nous, c'est notre modèle. Voilà. Alors, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, contempler notre petitesse. De temps en temps, ça nous fait du bien. Alors attention, il peut y avoir un effet pervers. Hein. C'est pas pour nous dire « Ah, oh, ben, je vaux rien, alors je... Voilà. » Non, non, oui, vous m'avez entendu. Hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais je peux tout en celui qui me fortifie. C'est pas parce que je... C'est quand je suis faible que je suis fort, dit saint Paul. Donc ça tombe bien, si vous contemplez votre petitesse, votre néant, votre etc., et que vous trouvez que vous n'êtes vraiment pas grand-chose, eh ben tant mieux. Parce que c'est avec ça, le bon Dieu va pouvoir faire de grandes choses. Ah, vous savez, Moïse, quand le Seigneur vient le trouver au buisson ardent, qui lui dit, il dit, oh là là, bon, pas chaud, chaud, Moïse. Hein, il dit, tu ne peux pas trouver quelqu'un d'autre, parce que moi, je ne connais pas ce peuple. Non, non, mais le Seigneur dit, je suis avec toi, vas-y. Alors, il dit, bon, bah oui, mais je ne saurais pas quoi dire, en fait. Ben, il leur dit, c'est pas grave, tu vas leur dire, je suis le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis celui qui est. Voilà. Donc maintenant, c'est bon, tu peux y aller. C'est pas notre petitesse qui va nous empêcher de faire, c'est l'inverse. C'est notre pseudo-grandeur hein, qui nous empêche de faire des choses. Tous les grands saints ont considéré leur petitesse. Saint Ignace recommande, bon, c'est toujours un peu rude, hein, comme je vous le dis, c'est les Espagnols, hein, mais de considérer notre âme hein, comme un ulcère, une plaie. C'est pas drôle. Bon. Hein, mais petit, 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 petit. Mais c'est pas grave, Dieu va faire avec ça, justement. Il ne compte pas sur les puissants, il est déjà tout puissant. Donc, il s'en fiche, le Seigneur. Voilà. Et donc, si je ne peux rien moi-même, demandez la grâce de Dieu. Vous voyez ? Toujours, on demande la grâce de Dieu. Il faut demander la grâce de Dieu. Demander la grâce, même si on sait qu'on sait le faire, demander la grâce. Parce que c'est avec Dieu qu'on veut travailler. Surtout si on travaille pour le bon Dieu. Vous voyez ? Voilà. Alors, c'est pas de la fausse modestie hein, que cette humilité, c'est une véritable considération de nos qualités objectives. Les Belges racontent une histoire très, très, très mignonne, hein, qui disent pour faire de l'argent, il faut acheter un Français au prix qu'il croit devoir valoir et le revendre au prix qu'il vaut vraiment. Non, c'est l'inverse, pardon, c'est l'inverse. Je suis très mauvais pour les... Je ne suis pas très mathématique, voilà, c'est l'inverse. Donc, il faut l'acheter au prix qu'il vaut vraiment et le revendre au prix qu'il croit devoir valoir. Là, on fait une fortune. Bon, c'est une petite blague, mais vous voyez, la question de juger avec justesse qui on est. Porter sur nous un regard juste. Voilà. Monsieur Escrivain, qui a plein d'humour aussi, à quelqu'un qui... Un autre qui lui écrivait qu'il était très orgueilleux. Alors, il y a toute une lettre voilà, pour expliquer comment il était orgueilleux, etc. Et Monseigneur Escrivain lui renvoie un tout petit mot en disant « Toi, orgueilleux, virgule, de quoi ?» Point d'interrogation. Voilà, ça calme. Hein? Voilà. Et donc, voilà, refuser les honneurs ostentatoires. Hein? Si on a fait quelque chose de bien, on a fait quelque chose de bien, c'est tout, c'est bien. Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher, qu'on vous applaudisse, etc. Il y a une histoire comme ça, c'est Saint Pidis, le pape Pidis, était d'usage d'applaudir le Saint-Père dans Saint-Pierre de Rome, et il a décidé qu'on ne ferait plus, on ne l'applaudirait plus. Et il a fait cette phrase, parce que c'est un homme de la campagne, très terre à terre, hein, il avait dit « On n'applaudit pas un domestique dans la maison de son patron ». Peut-être qu'on pourrait le relire. Tout le monde. Voilà. Et donc, je vous conseille donc l'humilité, de travailler cette humilité, de la demander, c'est une grâce. Et puis, le dernier conseil, c'est l'humour. Parce que, comme le dit Thomas More, le diable, et spécialement son esprit d'orgueil, ne supporte pas qu'on le raille. Voilà. Quand vous pourrez avoir un petit peu d'humour sur vous-même, hein, l'humour suppose un petit détachement pour pouvoir se regarder en disant bon, voilà, hein, et ben vous êtes sûr que vous allez éloigner l'orgueil de vous. Et en plus, c'est plutôt agréable l'humour. Hein, c'est pas, il s'agit pas de se mortifier à coups de sabre ou de discipline. Hein, un petit peu d'humour, et puis du coup, on se voit avec plus de netteté. Alors, voilà ce premier péché capital qu'on a vu aujourd'hui, qui est certainement la source de beaucoup d'autres. Hein, il est le péché des péchés, il est celui qui va nous rester dans le fond, celui avec lequel on va se battre jusqu'au bout. Il ne faut pas désespérer, car nous avons la grâce nécessaire. Nous avons toujours la grâce nécessaire. Soyez-en persuadés, demandez-la, et c'est ce qu'a demandé saint Paul, hein, à Dieu, en lui disant qu'il fallait qu'il enlève de lui un péché, une écharpe dans la chair, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà. Et le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Et cette écharpe dans sa chair était là pour lui rappeler qu'il n'était pas si extraordinaire qu'il croyait. Dieu merci. Et pourtant, saint Paul, il a bâti l'Église. Alors, demandez, par l'intercession de saint Paul, qu'il vous conserve dans la grâce de Dieu, et qui vous donne la force, justement, d'aller vers lui. Amen.